Chapitre 5. C'est une sensation étrange que de recevoir la révélation d'un bonheur rétrospectif qui a passé près de vous sans être aperçu ou qu'on a manqué par sa faute. Jamais le regret de l'irréparable n'est plus amer. On voudrait reprendre ces jours écoulés. On fait l'admirable plan de conduite. On se doue après coup de perspicacités étonnantes. Mais la vie ne se retourne pas comme un sablier. Le grain tombé ne remontera jamais. Guy de Malivert se reprochait vainement de n'avoir pas su deviner cette créature charmante qui n'était pas enfouie dans un harem de Constantinople, ni cachée derrière les grilles d'un couvent d'Italie ou d'Espagne, ni gardée comme Rosine par un tuteur jaloux, mais qui était de son monde, qu'il pouvait voir tous les jours, et dont aucun obstacle sérieux ne le séparait. Elle l'aimait. Il l'eût demandé, il l'eût obtenu, et il eût joui de cette félicité suprême et rare d'être uni dans cette terre à l'âme faite pour son âme. À la façon dont il adorait l'ombre, il comprenait quelle passion la femme lui eût inspirée. Mais bientôt, ses idées prirent un autre cours. Il cessa de récriminer contre lui-même et se reprocha ses vulgaires doléances. Qu'avait-il perdu, puisque Spirit avait conservé son amour au-delà du tombeau et s'arrachait les profondeurs de l'infini pour descendre jusqu'à la sphère habitée par lui? La passion qu'il éprouvait n'était-elle pas plus noble, plus poétique, plus éthérée, plus rapprochée de l'éternel amour, dégagée ainsi de toute contingence terrestre, ayant pour objet une beauté idéalisée par la mort? L'union humaine la plus parfaite n'a-t-elle pas ses lassitudes, ses satiétés et ses ennuis? L'œil le plus ébloui voit, au bout de quelques années, les charmes adorés pâlir. L'âme se fait moins visible à travers la chair flétrie, et l'amour étonné cherche son idole disparue. Ses réflexions et le train ordinaire de la vie, avec ses exigences auxquelles ne peuvent se soustraire les rêveurs les plus enthousiastes, conduisirent Malivert jusqu'au soir qu'il attendait patiemment. Quand il se fit enfermer dans son cabinet et assis près de la table comme la veille en posture d'écrire, la petite main blanche, fluette, veinée de bleu, reparut, faisant signe à Malivert de prendre la plume. Il obéit, et ses doigts commencèrent à se mouvoir d'eux-mêmes sans que son cerveau leur dictât rien. À sa pensée s'était substituée celle de Spirit. 10. Dictée de Spirit. Je ne voudrais pas vous ennuyer d'une façon posthume en vous racontant toutes mes déconvenues. Un jour, cependant, j'eus une joie bien vive, et je crus que la destinée malicieuse, qui semblait se faire un jeu de me dérober à vos regards, allait cesser ses taquineries. Nous devions dîner le samedi suivant chez M. de L. Le fait m'eût été bien différent si je l'eusse appris dans la semaine par le baron de Ferroé, qui venait quelquefois à la maison, que vous deviez faire partie de cette agape moitié mondaine, moitié littéraire. Car M. de L se plaisait à recevoir des artistes et des écrivains. C'était un homme de goût, un connaisseur en livres et en peinture, qui avait une bibliothèque et un cabinet de tableaux d'un choix irréprochable. Vous alliez quelquefois à ces soirées, ainsi que plusieurs auteurs célèbres ou en train de se faire un nom. M. de L se piquait de savoir découvrir les talents, et il n'était pas de ceux qui ne croient qu'aux réputations toutes faites. Je me disais dans mon exaltation enfantine, « Enfin, je le tiens, ce fugitif, cet insaisissable. Cette fois, il ne pourra l'échapper. Quand nous serons assis à la même table, peut-être à côté l'un de l'autre, éclairés par 50 bougies, quelque distrait qu'il soit, il faudra bien qu'il m'aperçoive. À moins cependant qu'il y ait entre nous une corbeille de fleurs ou une pièce du surtout qui me manque. » Les jours qui me séparaient encore du bienheureux samedi me parurent d'une incommensurable durée, aussi longs que les heures de classe du couvent. Ils se passèrent enfin et nous arrivâmes tous les trois, mon père, ma mère et moi, chez M. de L, une demi-heure à peu près avant l'heure du repas. Les invités, disséminés dans le passant, formaient des groupes de causerie, allaient et venaient, regardaient les tableaux, ouvraient les brochures jetées sur la table ou disaient des nouvelles de théâtre à quelques femmes assises sur un divan près de la maîtresse de la maison. Parmi eux se trouvaient deux ou trois écrivains illustres que mon père me nomma et dont la physionomie ne me parut pas en rapport avec le caractère de leur œuvre. Vous n'étiez pas encore arrivé, les convives étaient au complet et M. de L commençait à se plaindre de votre inexactitude lorsqu'un grand laquais entra portant sur un plateau d'argent où se trouvait un crayon pour signer et constater l'heure, un télégramme de votre part venant de Chantilly et contenant ces mots en style électrique « Manquez le train, ne m'attendez pas, désespéré. » Le désappointement était cruel. Toute la semaine, j'avais caressé cette espérance qui s'évanouissait au moment d'être accomplie. Une tristesse que j'eus grand-peine à dissimuler s'empara de moi, et les roses que l'animation avait fait monter à mes joues se décolorèrent. Heureusement, les portes de la salle à manger s'ouvrirent, et le maître d'hôtel annonça que Madame était servie. Le mouvement qui se fit parmi les convives empêcha qu'on ne remarquât mon trouble. Quand tout le monde fut assis, une place resta vide à ma droite, c'était la vôtre, et pour que je n'en pût douter, votre nom était écrit en belles rondes sur une carte enjolivée de fines arabesques en couleur et posée près de votre rangée de verres. Ainsi, l'ironie de la destinée était complète. Sans ce vulgaire contretemps de chemin de fer, je vous aurais eu pendant toute la durée du repas, frôlant ma robe et votre main pouvant effleurer la mienne, dans ces mille petits services qu'à table la galanterie la moins empressée croit devoir rendre à une femme. Quelques paroles banales d'abord, comme tout prélude de conversation, eussent été échangés entre nous. Puis, la glace rompue, l'entretien fut devenu plus intime, et votre esprit n'eut pas tardé à comprendre mon cœur. Peut-être ne vous aurais-je pas déplu, et quoiqu'arrivant d'Espagne, m'eussiez-vous pardonné la blancheur rosée de mon teint et l'or pâle de mes cheveux. Si vous étiez venu à ce dîner, votre vie et la mienne prenaient à coup sûr une autre direction. Vous ne seriez plus garçon, je vivrais, et je ne serais pas réduite à vous faire des déclarations d'outre-tombe. L'amour dont vous vous êtes pris pour mon ombre me permet de croire, sans trop d'orgueil, que vous n'eussiez pas été insensible à mes charmes terrestres. Mais cela ne devait pas être. Ce siège non occupé, qui m'isolait des autres convives, me paraissait un symbole de mon sort. Il m'annonçait l'attente vaine et la solitude au milieu de la foule. Ce sinistre présage n'a été que trop bien rempli. Mon voisin de gauche était à ce que je suis depuis un personnage académique, fort aimable, quoique savant. Il essaya à plusieurs reprises de me faire parler, mais je ne répondais que par monosyllabes, et encore, ces monosyllabes s'adaptaient si mal aux demandes que l'interlocuteur rebuté me prit pour une sotte et m'abandonna pour converser avec son autre voisine. À peine touchai-je du bout des lèvres à quelques mets. Je me sentais le cœur si gros que je ne pouvais manger. Le dîner se termina enfin, l'on passa au salon, et des causeries disséminées s'établirent selon les sympathies des convives. Dans un groupe assez rapproché du fauteuil où j'étais assise, pour que j'entendisse tout ce qui s'y disait, votre nom, prononcé par M. d'Aversac, excita ma curiosité. « Ce diable de Malivert, disait d'Aversac, est entiché de son pacha. De son côté, le pacha raffole de Malivert. Il ne se quitte plus. Mohamed Mustapha, je ne sais trop comment il s'appelle, veut emmener Guy en Égypte. Il parle de mettre à sa disposition un bateau à vapeur pour remonter jusqu'aux premières cataractes. Mais Guy, qui est aussi barbare que le Turc est civilisé, préférait une cange comme plus pittoresque. Ce projet sourit à Malivert, qui trouve qu'il fait bien froid à Paris. Il aimerait assez hiverner au Caire et y continuer ses études sur l'architecture arabe, commencer avec l'Alhambra. Mais s'il va là-bas, j'ai peur qu'on ne le revoie jamais, et qu'il n'embrasse l'islamisme comme Hassan, le héros de la Mouna. Oh, il en est bien capable, répondit un jeune homme mêlé au groupe. Il a toujours manifesté un goût médiocre pour la civilisation occidentale. Bah, reprit un autre, quand il aura porté quelques costumes exacts, pris une douzaine de bonnes vapeurs, acheté au Jalabam une ou deux esclaves qu'il revendra à perte, grimpé sur les pyramides, crayonné le profil camard du sphinx, il reviendra, fouler tranquillement l'asphalte du boulevard des Italiens, qui est après tout le seul endroit habitable de l'univers. Cette conversation me jeta dans un grand trouble. Vous alliez partir? Pour combien de temps? Qui le savait? Aurais-je la chance de vous rencontrer avant votre départ et de vous laisser au moins mon image à emporter? C'est un bonheur auquel je n'osais plus croire, après tant d'essais inutiles. De retour à la maison, après avoir rassuré ma mère, qui sur ma pâleur m'avait cru malade, ne pouvant soupçonner ce qui se passait dans mon âme, je me mis à réfléchir profondément sur ma situation. Je me demandais si cet entêtement des circonstances à nous séparer n'était pas comme un secret à vie de la destinée auquel il serait dangereux de ne pas obéir. Peut-être devez-vous m'être fatal, et avais-je tort de m'obstiner ainsi à me trouver sur votre passage. Ma raison seule parlait, car mon cœur n'acceptait pas cette idée, et voulait jusqu'au bout courir les risques de son amour. Je me sentais invinciblement attaché à vous, et ce lien, si frêle en apparence, était plus solide qu'une chaîne de diamants. Mais par malheur, il ne liait que moi. Que le sort des femmes est douloureux, me disais-je. Condamnées à l'attente, à l'inaction, au silence, elles ne peuvent, sans manquer à la pudeur, manifester leur sympathie. Il faut qu'elles subissent l'amour qu'elles inspirent, et elles ne doivent jamais déclarer celui qu'ils ressentent. Dès que mon âme s'est éveillée, un sentiment unique s'est emparé d'elle, sentiment pur, absolu, éternel. Et l'être qui en est l'objet l'ignorera peut-être toujours. Comment lui faire savoir qu'une jeune fille, qu'il aimerait sans doute, s'il pouvait soupçonner un tel en secret, ne vit et ne respire que pour lui? Un instant, j'eus l'idée de vous écrire une de ces lettres, comme parfois dit-on les auteurs en reçoivent, où, sous le voile de l'admiration, se laissent deviner des sentiments d'un autre genre et qui sollicitent quelques rendez-vous non compromettants dans un théâtre ou dans une promenade. Mais ma délicatesse féminine se révoltait contre l'emploi d'un pareil moyen, et j'avais peur que vous ne me prissiez pour un bas-bleu voulant faire par votre protection recevoir un roman à la Revue des Deux Mondes. D'Aversac avait dit vrai. La semaine suivante, vous étiez parti pour le Caire avec votre pacha. Ce départ, qui rejetait mes espérances à une époque incertaine, m'inspira une mélancolie que j'avais peine à cacher. L'intérêt de ma vie était suspendu. Je n'avais plus de coquetterie et quand j'allais dans le monde, je laissais ma femme de chambre décider du choix de mes parures. À quoi bon être belle puisque vous n'étiez pas là? Je l'étais cependant encore assez pour être entouré comme Pénélope d'une cour de prétendants. Peu à peu, notre salon fréquenté par les amis de mon père, hommes graves et un peu mûrs, s'était peuplé de figures plus jeunes, plus assidues à nos vendredis. Dans les embrasures des portes, je voyais le beau ténébreux, correctement frisé, dont le nœud de cravate devait écouter de profondes méditations, me jeter à la dérobée des regards passionnés et fascinateurs. D'autres, pendant les figures de la contredanse, quand il y avait sauterie au piano, poussaient les soupirs que je mettais, sans être touché le moins du monde, sur le compte de l'essoufflement. Quelques-uns plus hardis risquaient quelques phrases morales et poétiques sur les félicités d'une union bien assortie, et se prétendaient faits tout exprès pour le bonheur légitime. Comme ils étaient tous soignés, parfaits, irréprochables, d'une délicatesse idéale. Le parfum de leurs cheveux venait de chez Houbigant, leurs habits étaient taillés par Renard. Que pouvait demander de plus une imagination exigeante et romanesque? Aussi ces beaux jeunes gens paraissaient-ils naïvement surpris du peu d'impression qu'ils produisaient sur moi. Les plus dépités, alors je crois, jusqu'à me soupçonner de poésie. Quelques parties sérieux se présentèrent. Ma main fut plus d'une fois demandée à mes parents. Mais consulté, je répondis toujours par la négative, trouvant à propos des objections excellentes. On n'insistait pas, j'étais si jeune qu'il n'y avait pas lieu de se presser pour se repentir plus tard de la précipitation du choix. Croyant à quelques préférences cachées, ma mère m'interrogea, et je fus sur le point de m'ouvrir à elle, mais une invincible pudeur me retint. Cet amour que j'éprouvais seul, et que vous ignoriez, me semblait un secret que je ne devais pas dévoiler sans votre assentiment. Il ne m'appartenait pas tout à fait, et vous en aviez une moitié. Je gardais donc le silence. Et d'ailleurs, comment avouer, même à la plus indulgente des mères, cette passion folle, elle pouvait paraître telle, née d'une impression d'enfance, dans le parloir d'un couvent, opiniâtrement maintenue au fond de mon âme, et que rien ne justifiait au point de vue humain. Si j'eusse parlé, ma mère, car mon choix n'avait rien de blâmable ni d'impossible, il sans doute cherchait à nous réunir et trouver pour vous faire prononcer quelqu'une de ces subterfuges que savent en pareille occasion inventer les femmes les plus honnêtes et les plus vertueuses. Mais cette idée répugnait à ma probité virginale. Je ne voulais entre vous et moi aucun intermédiaire. Vous deviez me remarquer et me deviner vous-même. À ce prix seul, je pouvais être heureuse et me pardonner d'avoir été la première à vous aimer. Il fallait cette consolation et cette excuse à ma pudeur de jeune fille. Ce n'était ni orgueil ni coquetterie, mais un pur sentiment de dignité féminine. Le temps se passa et vous revînt d'Égypte. On commença à parler de vos assiduités chez Madame d'Amercourt, dont on vous prétendait fort amoureux. Mon cœur s'alarma, je désirais voir ma rivale. On me la montra dans la loge aux Italiens. Je tâchais de la juger impartialement, et je la trouvais belle, mais sans charme et sans finesse, comme la copie d'une statue classique faite par un sculpteur médiocre. Elle réunissait tout ce qui forme l'idéal des sots. Je m'étonnais que vous eussiez le moindre goût pour cette idole. Il manquait à la figure de Madame d'Humbercourt, si régulière d'abord, le trait particulier, la grâce originale, le charme inopiné. Telle elle paraissait ce soir-là, telle elle devait toujours être. Malgré ce qu'on disait, j'eus l'amour-propre de n'être pas jalouse de cette femme. Cependant, les bruits répandus sur votre mariage prenaient de la consistance. Comme les mauvaises nouvelles parviennent toujours à ceux qu'elles intéressent, j'étais informé de tout ce qui se passait entre vous et Madame d'Humbercourt. L'un disait que les premiers bans étaient publiés. L'autre allait jusqu'à fixer le jour précis de la cérémonie. Je n'avais pas le moyen de vérifier l'exactitude ou la fausseté de ces bruits. Cela paraissant à tout le monde une affaire arrangée et très convenable, sous tous les rapports, il m'a fallu bien y croire. Pourtant, la voix secrète de mon cœur m'affirmait que vous m'aimiez pas, Madame de Gabcourt. Mais souvent, des mariages se font sans amour, pour avoir une maison, pour régulariser sa position dans le monde, par ce besoin de repos qu'on éprouve après les écarts et les fougues de la jeunesse. Un profond désespoir s'empara de moi. Je voyais ma vie se fermer, mon chaste rêve caressé si longtemps s'évanouir à jamais. Je ne pouvais même plus penser à vous, dans le coin le plus mystérieux de mon âme, car vous, appartenant à une autre devant Dieu et les hommes, cette pensée innocente jusqu'alors devenait coupable, et dans ma passion de jeune fille, il ne s'était rien glissé dont mon ange gardien pour rougir. Une fois, je vous rencontrai au bois de Boulogne, chevauchant près de la calèche de Madame d'Humbercourt, mais je me rejetai au fond de la voiture, prenant autant de soin pour me cacher que j'en eusse mis auparavant pour être vu. Cette rapide version fut la dernière. J'avais 17 ans à peine. Qu'allais-je devenir? Comment finir une existence secrètement brisée de son début? Fallait-il accepter un des partis qu'approuveraient mes parents dans leur sagesse? C'est ce qu'en pareille occasion ont fait bien les jeunes filles, séparés comme moi de leur idéal par d'obscures fatalités. Mais ma loyauté se révoltait contre un semblable compromis. Selon moi, ma première et unique pensée d'amour ayant été pour vous, je ne pouvais en ce moment appartenir qu'à vous seul, et toute autre union me parut une sorte d'adultère. Mon cœur n'avait qu'une page. Vous y aviez écrit votre nom sans le vouloir, et nul autre ne devait l'y remplacer. Votre mariage ne relevait pas de ma fidélité. Inconscient de mon amour, vous étiez libre, mais moi j'étais lié. L'idée d'être la femme d'un autre m'inspirait une insupportable horreur, et après plusieurs prétendants refusés, sachant combien est difficile dans le monde la position de vieille fille, je me décidai à quitter le siècle et à entrer en religion. Dieu seul pouvait abriter ma douleur et la consoler, peut-être. J'entrai comme novice au couvent des Sœurs de la Miséricorde, malgré les remontrances et les supplications de mes parents, qui attendrirent mais n'ébranlèrent pas mon courage. Si ferme que soit la résolution dont on est armé, c'est un moment terrible que celui de la séparation suprême. Au bout d'un long couloir, une grille marque la limite du monde et du cloître. La famille peut accompagner jusqu'à ce seuil infranchissable pour tout profane, la Vierge qui se dévoue à Dieu. Après les derniers embrassements, dont des figures mornes et voilées attendent la fin d'un air impassible, le battant s'entr'ouvre juste assez pour laisser passer la novice que des bras d'ombre semblent entraîner, et il retombe avec un bruit de fer qui se prolonge dans le silence des corridors comme un tonnerre sourd. Le son que rend le couvercle d'un cercueil qui se ferme n'est pas plus lugubre et ne retentit pas plus douloureusement sur le cœur. Je me sentis pâlir et un froid glacial m'enveloppa. Je venais de faire mon premier pas hors de la vie terrestre, désormais close pour moi. Je pénétrais dans cette région froide où les passions s'éteignent, où les souvenirs s'effacent, où les rumeurs du siècle n'arrivent plus. Là, rien n'existe que la pensée de Dieu. Elle suffit à remplir le vide effrayant et le silence qui règne en ces lieux, aussi profond que celui de la tombe. J'en puis parler, puisque je suis morte. Ma piété, quoique tendre et fervente, n'était pas poussée jusqu'à l'exaltation mystique. C'était un motif humain plutôt qu'une vocation impérieuse qui m'avait fait chercher la paix à l'ombre du cloître. J'étais une naufragée de l'âme, brisée sur un écueil inconnu, et mon drame, invisible pour tous, avait eu son dénouement tragique. Au commencement, j'éprouvais donc ce que dans la vie dévote on appelle des aridités, des fatigues, des retours vers le monde, de vagues désespérances, dernière tentation de l'esprit du siècle voulant reprendre sa proie. Mais bientôt, ce tumulte s'apaisa. L'habitude des prières et des pratiques religieuses, la régularité des offices et la monotonie d'une règle calculée pour dompter les rébellions de l'âme et du corps, tournèrent vers le ciel des pensées qui se souvenaient encore trop de la terre. Votre image vivait toujours dans mon cœur, mais je parvins à ne plus vous aimer qu'en Dieu. Le couvent des Sœurs de la Miséricorde n'est pas un de ces cloîtres romantiques comme les mondains en imagineraient pour abriter un désespoir d'amour. Point d'arcades en ogive, de colonnettes festonnées de lierre, de rayons de lune pénétrant par le trèfle d'une rosace brisée et jetant sa lueur sur l'inscription d'une tombe. Point de chapelle aux vitraux diaprés et aux piliers fuselés, aux clés de voûte découpées à jour, excellent motif de décoration ou de diorama. La religiosité qui cherche à soutenir le christianisme par son côté pittoresque et poétique n'y trouverait aucun thème, à description dans le genre de Chateaubriand. La bâtisse en est moderne et n'offre pas le moindre coin obscur pour loger une légende. Rien n'y amuse les yeux, aucun ornement, aucune fantaisie d'art, ni peinture, ni sculpture. Ce ne sont que lignes sèches et rigides. Une clarté blanche illumine comme un jour d'hiver la pâleur des longs couloirs, aux parois coupées par les portes symétriques des cellules, et glace d'une lumière frisante les blancs et luisants. Partout règne une sévérité morne, insouciante du beau, et ne songeant point à revêtir l'idée d'une forme. Cette architecture maussade a l'avantage de ne pas distraire des âmes qui doivent être abîmées en Dieu. Aux fenêtres placées haut, des barreaux de fer se croisent serrés, et par leurs noires quadrilles ne laissent du dehors entrevoir que le ciel bleu ou gris. On est là, au milieu d'une forteresse élevée contre les embûches du monde. La solidité de la clôture suffit, la beauté serait superflue. Elle-même, la chapelle, ne se livre qu'à moitié aux dévotions des fidèles extérieurs. Une grande grille montant du sol à la voûte et garni des péridots verts, s'interpose comme la herse d'une place de guerre entre l'église et le chœur réservé aux religieuses. Des stalles de bois aux sobres moulures et illustrées par le frottement le garnissent de chaque côté. Au fond, vers le milieu, sont placés trois sièges pour la supérieure et ses deux assistantes. C'est là que les sœurs viennent entendre l'office divin, le voile baissé et traînant leur longue robe noire, sur laquelle se dessine une large bande d'étoffe blanche semblable à la croix d'un drap funèbre dont on aurait retranché les bras. De la tribune à treillis où se tiennent les novices, je les regardais saluer la supérieure et l'autel, s'agenouiller, se prosterner, s'engloutir dans leurs stalles changés en prie-dieu. À l'élévation, le rideau du milieu s'entrouvre à demi et permet d'entrevoir le prêtre consommant le saint sacrifice à l'autel placé en face du chœur. La ferveur de ces adorations m'édifiait et me confirmait dans ma résolution de rompre avec le monde, vers lequel je pouvais encore revenir. Dans cette atmosphère d'extase et d'encens, aux tremblantes lueurs de cierges jetant un rayon pâle sur ses fronts prosternés, mon âme se sentait pousser les ailes et tendait de plus en plus à s'élever vers les régions éthérées. Le plafond de la chapelle s'emplissait d'azur et d'or, et dans une trouée du ciel, il me semblait voir, du bord d'un nuage lumineux, les anges se pencher vers moi avec un sourire et me faire signe de venir à eux, et je m'apercevais plus la teinte fausse du badigeon, le goût médiocre du lustre, et la pauvreté des peintures encadrées de bois noir. Le temps de prononcer mes vœux approchait. On m'entourait de ces encouragements flatteurs, de ces prévenances délicates, de ces caresses mystiques, de ces espoirs de félicité parfaite qu'on prodigue dans les couvents aux jeunes novices près de consommer le sacrifice et de se vouer pour toujours au Seigneur. Je n'avais pas besoin de ce soutien, et je pouvais marcher à l'autel d'un pas ferme. Hormis la tendresse de mes parents, forcés, je le croyais du moins, de renoncer à vous, je ne regrettais rien au monde, et ma résolution de n'y pas rentrer était immuable. Les épreuves terminées, le jour solennel arriva. Le couvent d'ordinaire si paisible était animé d'une sorte d'agitation contenue par la sévère discipline monastique. Les religieuses allaient et venaient dans les couloirs, oubliant parfois ce pas de fantôme que recommande la règle, car c'est un grand événement qu'une prise d'habit. Une nouvelle brebis va se joindre au troupeau et tout le bercail s'émeut. La toilette mondaine dont la novice se revêt pour la dernière fois est un sujet de curiosité, de joie et d'étonnement. On admire avec une sorte de crainte ce satin, ces dentelles, ces perles, ces joyaux destinés à représenter les pompes de Satan. Ainsi paré, je fus conduite au chœur. La supérieure et ses assistantes étaient à leur place, et dans leur stalle, les religieuses inclinées priaient. Je prononçais les paroles sacramentelles qui me séparaient à jamais des vivants, et, comme le rituel de la cérémonie l'exige, je repoussais du pied le riche carreau de velours sur lequel, à de certains moments, j'avais dû m'agenouiller. J'arrachais mon collier et mes bracelets, et je me défie de mes parures en signe de renoncement à la vanité et au luxe. J'abjurais la coquetterie de la femme, et cela ne me fut pas difficile, puisque je n'avais pas le droit de vous plaire et d'être belle pour vous. Puis vint la scène la plus redoutée et la plus lugubre de ce drame religieux. Le moment où l'on coupe les cheveux à la nouvelle sœur, vanité désormais inutile. Cela rappelle la toilette du condamné. Seulement la victime est innocente, ou tout au moins purifiée par le repentir. Quoique juge bien sincèrement et du fond du cœur fait le sacrifice de toute attache humaine, une blancheur de mort couvrit mon visage lorsque l'acier des ciseaux grinça dans ma longue chevelure blonde étalée que soutenait une religieuse. Les boucles d'or tombaient à flocons épais sur les dalles de la sacristie où l'on m'avait amené, et je les regardais d'un œil fixe pleuvoir autour de moi. J'étais atterré et pénétré d'une secrète horreur. Le froid du métal en m'effleurant la nuque me faisait tressaillir nerveusement comme au contact d'une hache. Mes dents claquaient, et la prière que j'essayais de dire ne pouvait parvenir à mes lèvres. Des sueurs glaciales comme celles de l'agonie baignaient mes tempes. Ma vue se troublait, et la lampe suspendue devant l'autel de la Vierge me semblait s'éteindre dans un brouillard. Mes genoux se dérobèrent sous moi, et je n'eus que le temps de dire, en étendant les bras comme pour me raccrocher au vide, « Je me meurs ». On me fit respirer des sels, et quand je revins à moi, étonné des clartés du jour, comme une ombre sortant du tombeau, je me trouvai entre les bras des sœurs qui me soutenaient avec un empressement placide et comme accoutumé à de pareilles défaillances. Bon, cela ne sera rien, me dit d'un air compatissant la plus jeune des sœurs. Le plus difficile est fait. Recommandez-vous à la Sainte Vierge, et tout ira bien. La même chose m'est arrivée quand j'ai prononcé mes vœux. C'est un des derniers efforts du malin. Deux sœurs me revêtirent de la robe noire de l'ordre et me passèrent l'étole blanche, et me ramenant au cœur, jetèrent sur ma tête rasée le voile linceul symbolique qui me faisait morte au monde et ne me laissait plus visible qu'à Dieu. Une légende pieuse que j'avais entendue raconter affirmait que si l'on demandait au ciel une grâce sous les plis du voile funèbre, elle vous était accordée. Quand le voile m'enveloppa, j'implorai de la bonté divine la faveur de vous révéler mon amour après ma mort, si un tel vœu n'avait rien de coupable. Il me sembla, je ne sais quelle joie intérieure et subite, que ma prière était exaucée, et j'en éprouvais un grand soulagement, car c'était là ma peine secrète, la pointe qui me piquait au cœur, et me faisait nuit et jour souffrir comme une pointe de hair cachée sous les vêtements. J'avais bien renoncé à vous dans ce monde, mais mon âme ne pouvait consentir à garder éternellement son secret. Vous raconterai-je mon existence au couvent? Là, les jours suivent les jours, inflexiblement pareils. Chaque heure a sa prière, sa dévotion, sa tâche à remplir. La vie marche d'un pas égal à l'éternité, heureuse d'approcher du but. Et cependant, ce calme apparent recouvre parfois bien des langueurs, des tristesses et des agitations. La pensée, quoique matée par la prière et la méditation, s'égare en rêverie. La nostalgie du monde vous prend. Vous regrettez la famille, la liberté, la nature. Vous songez au vaste horizon inondé de lumière, aux prairies étoilées de fleurs, aux collines avec leurs ondulations boisées, aux fumées bleuâtres qui montent le soir des campagnes, à la route où roulent les voitures, aux fleuves que sillonnent les barques, à la vie, au mouvement, au bruit joyeux, à la variété sans cesse renaissante des objets. On voudrait aller, courir, voler. On envie à l'oiseau ses ailes. On s'agite dans son tombeau. On franchit en idée les hautes murailles du couvent. Et la pensée revient aux endroits aimés, aux scènes d'enfance et de jeunesse qui revivent avec une magique vivacité dans le détail. Vous arrangez d'inutiles plans de bonheur, oubliant que le verrou de l'irrévocable est désormais tiré sur vous. Les âmes les plus religieuses sont exposées à ces tentations, à ces souvenirs, à ces mirages que la volonté repousse, que la prière essaie de dissiper, mais qui ne renaissent pas moins dans le silence et la solitude de la cellule, entre ces quatre murs blancs qui n'ont pour toute décoration qu'un crucifix de bois noir. Votre pensée, éloignée d'abord par la ferveur des premiers moments, me revenait plus fréquente et plus attendrie. Le regret d'une félicité perdue m'oppressait douloureusement le cœur, et souvent des larmes silencieuses coulaient le long de mes joues pâles, sans que j'en eusse conscience. La nuit, parfois, je pleurais en rêvant, et le matin, je trouvais mon rude traversin tout mouillé de cette rosée amère. Dans des songes plus heureux, je me voyais sur le perron d'une villa, montant avec vous au retour d'une promenade, un escalier blanc tacheté de découpures bleuâtres par l'ombre des grands arbres voisins. J'étais votre femme, et vous me jetiez des regards caressants et protecteurs. Tout obstacle entre nous avait disparu. Mon âme ne consentait pas à ces riants mensonges dont elle se défendait comme d'un péché. Je m'en confessais, j'en faisais pénitence. Je veillais dans la prière, et je luttais contre le sommeil pour me soustraire à ces illusions coupables. Mais elles revenaient toujours. Ce combat minait mes forces, qui ne tardèrent pas à s'altérer. Sans être maladive, j'étais délicate. La rude vie claustrale, avec ses jeûnes, ses abstinences, ses macérations, la fatigue des offices nocturnes, le froid sépulcral de l'église, les rigueurs d'un long hiver dont me préservait mal un mince froc d'étamine, et, plus que tout cela, les combats de l'âme, les alternatives d'exaltation et d'abattement, de doute et de ferveur, la crainte de ne pouvoir livrer au divin époux qu'un cœur distrait par un attachement humain et d'encourir les vengeances célestes, car Dieu est jaloux et ne peut souffrir de partage. Peut-être aussi la jalousie que m'inspirait Madame d'Abercourt. Toutes ces causes agitaient sur mon organisation d'une façon désastreuse. Mon teint avait pris le ton mat de la cire de cierge. Mes yeux, agrandis par la maigreur, brillaient fiévreusement dans leur orbite meurtrie. Les veines de mes tempes se dessinaient en réseau d'un azur plus foncé, et mes lèvres avaient perdu leur fraîche couleur rose. Les violettes de la mort prochaine commençaient à y fleurir. Mes mains étaient devenues fluettes, transparentes et pâles, comme des mains d'ombre. La mort n'est pas considérée au couvent comme dans le monde. On la voit arriver avec joie. C'est la délivrance de l'âme, la porte ouverte du ciel, la fin des épreuves et le commencement de la béatitude. Dieu retire à lui, plutôt que les autres, ses préférés, celles qu'il aime, et il abrège leur passage dans cette vallée de misère et de larmes. Des prières pleines d'espérance dans leur psalmodie funèbre entourent le grabat de la moribonde que les sacrements purifient de toute souillure terrestre et sur qui rayonne déjà la lueur de l'autre vie. Elle est pour ses sœurs un objet d'envie et non d'épouvante. Je voyais s'approcher le terme fatal sans frayeur. J'espérais que Dieu me pardonnerait un amour unique, si chaste, si pur, si involontaire, et que je m'étais efforcé d'oublier dès qu'il avait paru coupable à mes yeux, et qu'il voudrait bien me recevoir en sa grâce. Je fus bientôt si faible qu'il m'arrivait de m'évanouir dans mes prosternations et de rester étendue comme morte sous mon voile, la face contre le plancher. On respectait mon immobilité, comprenait pour de l'extase. Puis, voyant que je ne me relevais pas, deux religieux se penchaient vers moi, me redressaient comme un corps inerte, et, les mains sous mes aisselles, me reconduisaient, ou plutôt me rapportaient, à ma cellule, que bientôt je ne dus plus quitter. Je restais de longues heures, tout habillé sur mon lit, égrenant mon rosaire entre mes doigts, amaigri, perdu dans quelques vagues méditations, et me demandant si mon vœu serait accompli après ma mort. Mes forces décroissaient visiblement, et ces remèdes qu'on apportait à mon mal pouvaient diminuer ma souffrance, mais non me guérir. Je ne le souhaitais pas d'ailleurs, car j'avais par-delà cette vie un espoir longtemps caressé et dont la réalisation possible m'aspirait une sorte de curiosité d'outre-tombe. Mon passage de ce monde dans l'autre se fit de la manière la plus douce. Tous les liens de l'esprit et de la matière étaient brisés, excepté un fil plus ténu mille fois que ces fils de la Vierge qui flottent dans les airs par les beaux jours d'automne et qui seul retenait mon âme prête à ouvrir ses ailes au souffle de l'infini. Des alternatives de lumière et d'ombre, pareilles à ces heures intermittentes que jette une veilleuse avant d'expirer, palpitaient devant mes yeux déjà troubles. Les prières que les sœurs agenouillées murmuraient auprès de moi et auxquelles je m'efforçais de me joindre mentalement, ne m'arrivaient que par des bourdonnements confus, des rumeurs vagues et lointaines. Mes sens amortis ne percevaient plus rien de la terre, et ma pensée, abandonnant mon cerveau, voltigeait incertaine dans un rêve bizarre entre le monde matériel et le monde immatériel, n'appartenant plus à l'un et n'interprétant encore à l'autre, pendant que machinalement mes doigts pâles comme de l'ivoire froissaient et ramenaient les plis du drap. Enfin mon agonie commença, et on m'entendit à terre un sac de sang sous la tête pour mourir dans l'humble attitude qui convient à une pauvre servante de Dieu rendant sa poussière à la poussière. L'air me manquait de plus en plus, j'étouffais, un sentiment d'angoisse extraordinaire me serrait la poitrine, l'instinct de la nature luttait encore contre la destruction, mais bientôt cette lutte inutile cessa, et dans un faible soupir, mon âme s'exhala de mes lèvres.